se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi. On va tenter de terminer la semaine en beauté avec vous, évidemment. Vous nous écoutez à la radio sur RMC, vous nous regardez à la télé sur RMC Story, canal 23. Et puis vous pouvez nous appeler bien sûr au 3216 ou nous envoyer des messages sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. On adore vos messages dans l'émission et ils sont relayés par Thibaut Texer. Ça va Thibaut ?
Ça va très bien Estelle, bonjour à tous.
Perico les gars, c'est avec nous, journaliste à Marianne. Salut Perico.
On doit changer de saison parce que je suis légèrement enchiffrené.
Pourquoi vous êtes chiffonné ?
Enchiffrené.
Enchiffrené. Ah, mais voilà, brumé,
vous
quoi.
Savez, dans la chanson de Brassens, et l'enfant de cœur était enchiffrené, c'est-à-dire j'ai le nez qui coule.
Mais ben moi aussi.
Voilà, mais c'est
je suis malade.
Donc on change de saison. Je suis une véritable grenouille, j'adopte tout de suite le changement de météo.
D'accord, oui. Bon, enfin, on aurait pu juste regarder le calendrier. Bon, enfin bref. Thierry Moreux est encore là, j'ai envie de dire, mais ça fait plaisir. Ça va, Thierry ?
Ça fait plaisir d'être avec vous et toute l'équipe.
Oui, moi aussi.
Bonjour à tous.
Et il est de retour parmi nous, on est ravis.
Bonjour,
journaliste
Estelle.
Benjamin Muller, ça va Benjamin ?
Ça va très bien, moi je suis en pleine forme.
Notre bobo préféré sur RMC.
C'est ça.
Il est jeune surtout.
Enfin, il roule quand même en SUV. On en parlera dans l'émission. Au sommaire, aujourd'hui, dans Estelle Midi, la menace d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de motion de censure sur la réforme des retraites. Est-ce que ce serait la bonne solution ? On vous attend au 32-16. À midi et demi, un collectif écolo qui dégonfle les pneus des SUV, dont celui de Benjamin Muller, pour sauver la planète. Est-ce que c'est marrant ou est-ce que c'est choquant ? À 13h, les restaurateurs qui veulent interdire l'usage des tickets resto en supermarché pour les réserver uniquement à leurs établissements. Faut-il les soutenir ? 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la nouvelle rubrique que vous adorez dans Estelle Midi, le journal décalé de Paul Lassen qui fait le tour de la presse quotidienne régionale. À 14h, le Conseil d'État qui autorise les élèves transgenres à porter le prénom qu'ils veulent à l'école. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Et puis, très très beau cadeau à gagner aujourd'hui sur RMC, Thibault.
Et oui, la Coupe du Monde RMC vous envoie au Qatar pour assister au match Tunisie-France le 30 novembre prochain. Pour cela, vous envoyez RMC au 732-16.
RMC Estelle Midi.
Il est 17h, vous êtes sur RMC et on va démarrer tout de suite avec la menace du jour. C'est celle d'Emmanuel Macron qui n'exclut pas de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de motion de censure sur la réforme des retraites. Les partis d'opposition, Thibault, se frottent les mains.
Beaucoup parlé à gauche comme à droite, l'idée d'une dissolution est tournée en dérision. Chiche, lui réplique Marine Le Pen sur Twitter, une menace qui n'effraie pas le député écologiste Benjamin Lucas. Même pas peur, dit-il. Chez les Républicains, on est un peu plus mesuré. Olivier Malex appelle le chef de l'État à ne pas être brutal comme il l'a été, à respecter la démocratie, qu'il arrête de la mettre cette chienlit. Celui qui met le feu aux poudres, c'est lui, conclut le chef de file des députés LR, qui voit en cette déclaration d'Emmanuel Macron une déclaration de défiance envers l'Assemblée tout entière. Aurélien Pradier, lui, est moins mesuré, qualifiant le président de prince capricieux et impuissant. Des petits coups de menton qui ne nous impressionnent plus. La NUPES est prête à vous défaire, explique de son côté Mathilde Panot, présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale. Le groupe Insoumis qui annonce ce matin son refus de participer à, je cite, une mascarade concernant le nouveau cycle de concertation que va lancer le gouvernement sur les retraites.
Alors, est-ce que c'est la bonne solution de dissoudre l'Assemblée ? Je commence avec vous, Perico Legas.
Alors, il faut que la motion de censure soit votée. Elle peut ne pas l'être. Si elle est votée, la Constitution prévoit deux hypothèses. Le gouvernement tombe de toutes les façons. Donc, ou le président de la République reconduit ce gouvernement ou présente un autre chef de gouvernement à l'Assemblée nationale, soit effectivement il peut dissoudre.
C'est risqué. Hein.
S'il dissout, dans un état de panique, les Français redonnent une majorité absolue à Renaissance et à Ensemble peu probable, ou ils reconduisent l'Assemblée telle qu'elle est là, donc avec une majorité relative ou encore plus affaiblie, ou alors une minorité tout à fait absolue, auquel cas s'il est battu, le président de la République, je le vois venir, il démissionne, il reprovoque une présidentielle. Soit il y va plus en disant « je laisse tomber, je voulais vous les démerder ».
Soit il a gagné un an.
Soit il se représente, il gagne, parce qu'il n'y a personne en face de lui, supposé. Et s'il gagne, il redissout. C'est pour avoir une majorité...
Ça fait beaucoup d'élections.
Ben oui, non, c'est pour ça. Il est fou, là.
carrément.
Ah non, mais c'est...
Enfin...
Voilà, parce que... Non, mais ça serait très bien s'il y avait derrière... Attention, le Front National ou la NUPES peut gagner. Vous allez au cauchemar. Bon, on voit bien, ils sont là. Bon,
Et vous croyez que c'est pas le cas? On n'arrête pas de dire que le RN cesse de monter.
Mais le RN, là, ce qu'il va faire, c'est donner. Alors, peut-être que le calcul, c'est de dire, allez, on installe le RN au pouvoir une fois pour toutes. Ils reviennent pas avec 90 députés, mais 180 députés ou 120 députés. Du coup, je me représente, je démissionne, je regagne l'élection présidentielle pour refaire une législative. C'est infernal. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas vraiment où il va en venir. En tout cas, il fait peur à personne. Mais par contre, il fait un peu énervé, là. Il fait le gars agacé, j'en ai marre. Arrêtez de m'embêter.
Il fait le gars qui a un peu d'autorité, Benjamin Mulan.
Non, menace de quoi?
Vous êtes tombé dans son piège.
Oui, c'est pour ça.
Vous êtes tombé dans son piège.
À pied joint.
C'est tout l'inverse. Moi, je trouve que c'est un coup de génie qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il reste le maître du temps. C'est-à-dire que fin juin, il y a le deuxième tour des législatives. Il a la majorité relative. À partir de là, tout le monde dit c'est la cata pour lui. Lui, il commence à mettre directement la pression sur l'opposition. Il garde la main. L'été, globalement, il garde la main. Quand on commence à évoquer la réforme des retraites qui va être compliquée, il laisse fuiter l'idée du 49-3. Pendant une semaine, on débat que de ça, etc.
Oui.
Pour ou contre, mais personne ne débat du fond de la réforme. Ensuite, est-ce que ça passe par le PLF, SSS, je ne sais pas trop quoi.
Il y a trop de lettres,
il y a des 3 S en trop, etc. Là aussi, il garde la main. Et donc là, il laisse entendre une éventuelle dissolution. Je vous le dis, il ne le fera pas. Ça n'arrivera pas. En fait, il n'y aura jamais de dissolution pour une raison qui est simple. L'opposition se frotte les mains, c'est vrai à la NUPES, c'est vrai à l'extrême droite, mais pas les Républicains. Les Républicains, ils ont combien? Ils ont 61 députés aujourd'hui. Il y en a plein qui ont été des cracks. Ils n'auront aucun intérêt à voter cette motion de censure. Du coup, il n'y aura jamais la majorité et il n'y aura jamais de motion de censure votée, donc jamais de dissolution. Tout ça, c'est du bluff, c'est de la politique et il réussit à garder la main. Moi, je trouve que c'est brillant ce qu'il vient de faire. Au contraire, il n'a pas l'air énervé. Je trouve que c'est un fin tacticien.
Mais est-ce qu'il ne serait pas encore plus fin tacticien en disant je veux organiser un référendum sur la réforme des retraites? Tout ça, ça ferait plaisir à tout le monde.
Trop dangereux.
Tout le monde dirait c'est formidable. Bah oui, mais.
Trop dangereux.
Et la dissolution, c'est pas trop dangereux.
Trop dangereux parce qu'il risque de le perdre. Et je pense que Péricot est un trop fin analyste pour savoir que la dissolution ne se fera pas. Je rejoins complètement Benjamin. Il est impossible que l'ensemble des oppositions se fédèrent. Pour une raison simple, les LR, ils sont face à un texte qui est finalement assez proche de ce qu'ils souhaitent. Retraite à 65 ans, c'est peu ou prou ce qu'ils souhaitent. Par ailleurs, moi ça me ferait hurler de rire de voir l'ANUPS voter une motion de censure proposée par le Rassemblement National. Ils nous ont expliqué il y a deux jours qu'il était impossible qu'ils soient sur un même terrain de foot ensemble. Donc voter
une motion de censure
ou si elle venait de l'ANUPS parce qu'elle sera votée par le Front National, je ne crois pas. Et puis alors surtout, personne, contrairement à ce que disent tous les bravages qui sont au micro de notamment de l'ANUPS, ils n'ont aucun intérêt à une dissolution. Les LR, comme tu l'as dit, ils sont très
eux sont coincés, d'accord, peu élus,
ils reviendraient avec moins de
ceux-là, ils n'ont pas intérêt et ils sont peu ou prou dans je dirais l'entourage de la majorité, même s'ils ne font pas partie de la majorité, ils sont proches de la majorité. L'ANUPS, excusez-moi, avec les affaires aujourd'hui qui les transcendent, retourner devant les électeurs, ça va être compliqué pour Quatennens, ça va être compliqué pour Bayou, ça va être compliqué pour un certain nombre de gens qui ont bénéficié d'un effet d'aubaine. Finalement, la seule qui peut en bénéficier, c'est éventuellement le Rassemblement National. S'il y avait, Renaissance n'a pas intérêt non plus à ça. Donc je pense qu'à l'intérieur de Renaissance, tout le monde lutte contre ça. Parce que le vote anti-Macron pourrait être plus important qu'il y a quelques mois.
Évidemment.
Donc, il n'y aura pas d'issolution.
Bah oui, enfin, excusez-moi, s'il brandit cette menace...
Il ne brandit pas cette menace, c'est une gesticulation.
Donc, c'est bien une gesticulation.
C'est de la tactique politique. Il le dit dans une réunion à l'Élysée. Oui. Il fait en sorte que les propos soient fuites. Oui. C'est exactement ça, de la tactique politique pour donner du grain à moudre.
Je pensais qu'il avait passé l'âge de ce genre de manœuvre lamentable.
Pardon.
Quand je dis passé l'âge, c'est suffisamment d'expérience. Et il continue à traiter les Français et la classe politique.
Mais pas du tout, parce qu'il dit d'un côté, on va allonger le calendrier avec trois mois de discussion.
C'est de la sous-tactique.
Mais en revanche,
au bout de 6 ans de présidence, il en est là. Bon. C'est ça sa vision de la politique française, mais c'est lamentable.
Alors justement, on a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent pour nous donner leur avis sur la question. On a tout d'abord Kamal qui nous appelle de Villejuif. Bonjour Kamal.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Et vous Kamal, vous êtes plutôt pour une dissolution de l'Assemblée?
Ah oui, absolument. Absolument.
Et pourquoi donc?
Tout simplement, alors pour commencer, déjà le gouvernement, il a juste une majorité relative. C'est pas absolu.
Ouais.
Et moi, je vous cache pas que j'ai le cœur qui va vers la gauche, on va dire ça comme ça. Sauf que je me sens pas présenté en fait dans cette assemblée, tout simplement, avec l'union de NUPES, avec une petite majorité pour le gouvernement. Et je me sens un peu perdu. Donc je préfère, même s'il faut passer par les urnes, et pour moi, je passerai par les urnes.
Et Kamal, est-ce que vous étiez allé voter au présidentiel?
Ah oui, les deux tours.
D'accord. Donc là, en fait, vous iriez à nouveau voter, quoi.
Et oui, il n'y a pas de problème. là-dessus, parce que là, c'est un peu de marchandage, là. 62, 64, 66, c'est quoi la prochaine? 70, et un petit chèque avec, ou c'est quoi? Donc, moi, oui, je suis prêt à repasser par les urnes. Oui.
Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a plein de Français comme Kamal. Alors Kamal, il est allé voter au présidentiel, mais vous avez eu énormément d'abstention au présidentiel. Et là, tout d'un coup, si Emmanuel Macron il dissout, vous risquez d'avoir beaucoup de Français qui n'ont pas été votés au départ en disant ça sert à rien, c'est joué, qui vont aller se mobiliser pour voter pour d'autres gens que le parti gouvernemental. Hein.
C'est sûr que ça changerait la donne, mais je pense que tout ça, il l'a en tête, raison de plus, à mon avis. À mon avis, on parle de quelque chose qui n'arrivera jamais. C'est un coup politique. Je ne suis pas d'accord avec vous, Perico. Moi, je trouve ça plutôt habile. Hein. Je trouve ça plutôt malin quand vous
si
dites.
Si ça marche.
Si ça marche.
Mais là, vous n'avez pas la réponse. Donc si ça marche pas.
Et moi, je trouve qu'il réussit aussi un autre coup à deux bandes, c'est de corneriser le Front National. Parce que le Front National, quand le 6 juillet dernier, la NUPES fait une motion de censure, au Front National, ils disent tous, non, nous attendez, on est une opposition raisonnable, il n'est pas question de voter, etc. Et là, il les pousse un petit peu à dire, OK, on est prêt à voter n'importe quoi de censure. Donc, il les remet dans une opposition systématique. Là aussi, c'est assez fin.
Non.
Oh, bah non, je suis pas d'accord. Tous ceux qui ont voté RN, je veux dire, ils seraient très contents d'aller revoter contre Macron.
Non, moi, je parle des députés qui ont voté.
Oui, mais c'est le jeu de l'Assemblée nationale. Ouais. Bah, heureusement qu'il y a cette marge. Ah, bien sûr. Mais là, je crois qu'au contraire, il a pas de visibilité et qu'il essaie de donner un coup de pied pour faire peur aux institutions. Voilà. Il essaie de faire peur aux Français. Il n'y a pas de tactique.
On est avec Jean-Christophe qui nous appelle de Troyes dans l'Aube. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Jean-Christophe, merci d'être avec nous sur RMC. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution finalement, la dissolution?
Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais moi je vois plus ça comme une espèce de forme de chantage surtout aussi. Je pense pas que c'est une solution idéale. Mais moi ce qui m'ennuie vraiment, je vais vous dire, là c'est une assemblée qui est assez représentative quand même pour une fois qu'on a eu. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas trouvé un consensus, que tout le monde puisse discuter, c'est que je fais une motion de censure, l'autre en face, il va dire, ben moi, sinon je dissous. On se trouve encore dans l'espèce de cours d'école, que je pense que tout le monde en a un peu marre de ça. Mais le but, normalement, c'est que ça, c'est bien représenter le peuple français. On le voit, il n'y a pas de solution parfaite, c'est sûr, pour toutes les décisions, mais il trouve une espèce de consensus sans se faire des menaces, sans se faire ceci. Enfin, c'est ça qui est un peu épuisant, je trouve, à force. Moi, j'ai voté aux deux tours des présidentielles et des législatives. Je me dis, si ça recommence à faire quelque chose, je sais même pas si je vais voter à force. On se dit que ça sort pas grand chose, quoi.
Mais oui.
Ah oui, carrément.
On commence à être des habitudes. Pourtant, j'ai toujours voté depuis que j'ai 18 ans.
Mais c'est intéressant ce que dit Jean-Christophe, parce qu'il dit que finalement, l'Assemblée d'aujourd'hui, elle est finalement plus représentative que quand il y a une majorité absolue qui écrase tout et qui fait ce qu'il veut.
Évidemment.
Donc effectivement, elle est plutôt bien, cette Assemblée. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on a élu aussi des gens, que ça soit au Rassemblement National ou à la NUPES, qui sont dans une opposition systématique et qui ne veulent pas de compromis. On a vu les stratégies politiques de la NUPES, c'est de s'opposer sur tout, tout le temps.
Là, c'est pas ça. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais la NUPES qui soit opposée sur la réforme des retraites à Emmanuel Macron, bah oui,
je suis d'accord, mais il y a deux textes sur lesquels
je comprends pas qu'il ait pas dit. Je vais faire on prendra le temps qu'il faudra, nous obtiendrons un accord consensuel de tous les groupes.
C'est ce qu'il a dit, mais
il a dit objectif 60.
Personne veut discuter avec lui.
Bah oui, comment il fait?
Il a quand même fixé un objectif, là, clairement. C'est
même
65.
Les LR ne veulent pas discuter.
Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on parle pas du tout de 63 ou 65 ans. Là, pour l'instant, on débat pas du tout du fond de la réforme.
Du fond.
Ce qui serait quand même, j'entendais Éric Woerth il y a quelques jours, qui disait que c'est quand même la reine des mesures la plus difficile à faire, qu'on touche à l'intime des gens, qu'on touche au rapport à la fin de vie, qu'on touche au rapport au travail. C'est quand même des débats qui sont intéressants et on n'en parle pas du tout. C'est quand même dommage.
Bah si, on commence à en parler, mais le problème c'est que de toute façon les partenaires sociaux, on se disait bon, il va quand même y avoir une discussion, mais ils veulent pas non plus discuter. Donc de toute façon Emmanuel Macron, il est quand même un peu bloqué. Thierry Moreau, il va pas discuter tout seul.
Non, mais on va voir ce que vont donner ces 3 mois de concertation qui ne seront pas présidées par Emmanuel Macron, mais qui vont se passer au niveau du ministère du Travail et de Matignon. Donc on va voir ce que ça va donner. S'il y a des avancées, s'il baisse à 64 comme il l'a laissé entendre pendant la campagne présidentielle, ou même
s'il
descend.
Mais il est revenu dessus, hein.
Non mais. Donc, ça veut dire que, comme le dit Benjamin, on ne sait pas ce qu'il y a dans le projet de loi, on ne sait pas quel est l'âge pivot, on ne sait pas de quelle façon la pénibilité va être prise en cause. Les carrières hachées, c'est ce qu'on disait hier, on ne sait pas non plus comment ça va être pris en compte. Donc, tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le projet et sur quoi on peut discuter, il n'y a pas de discussion possible pour l'instant.
Enfin, j'ose espérer quand même, Perico Légas, que Emmanuel Macron, c'est ce qu'il veut mettre dans son projet. Et si les syndicats ne veulent pas discuter, c'est parce que justement, il y a des choses qui déchiffonnent, notamment les 65 ans et la fin des régimes spéciaux. Et on sait que la fin des régimes spéciaux, dont personne ne parle, personne n'en a parlé pendant les présidentielles, ils s'en sont bien gardés. Et là, tout d'un coup, hop, on se dit, tiens, il y a les régimes spéciaux. Mais alors ça, pour le coup, on sait très bien qu'il n'y a aucun syndicat qui sera pour.
Je n'en suis plus si sûr qu'il sache exactement ce qu'il veut. Je pense qu'il a eu une idée très précise à un moment donné sur là. Il a dans sa majorité des analyses différentes. Je pense qu'il est, et j'ai l'impression là qu'il parle en fonction du dernier interlocuteur qu'il a eu, qui a été plus ou moins convaincant.
Ah, donc c'est François Bayrou qui va
bah, François Bayrou,
qui va gagner la partie.
Bah, là, François Bayrou a gagné une première étape. Mm. Voilà. Il n'y aura pas de passage. On avait dit fin de la semaine. Mm. Fin de la semaine, finalement, c'est janvier. C'est ça. Décembre, janvier. Là, je pense qu'il tâtonne. Il s'est engagé à réformer les, et il faut réformer les retraites, voilà. Donc, il veut partir, puisqu'il n'a pas de renouvellement de mandat. Il veut partir avec ce projet-là accompli, et il a une configuration absolument infernale. Ça, je le dédouane totalement sur le fait qu'il a des interlocuteurs qui sont difficiles. Pour autant.
Mais il a quand même, s'il met de l'eau dans son vin, les interlocuteurs, ils discuteront. Même la CFDT ne veut pas discuter.
Sauf qu'il nomme un médiateur neutre.
Si la CFDT ne discute pas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, vous imaginez.
Sauf que sur les régimes spéciaux, on sait très bien que les syndicats sont contre et qu'une majorité de la population est pour.
Ah, bah oui. Bah, en fait, donc, c'est vraiment problématique. Tous ceux qui bénéficient pas des régimes spéciaux sont pour. Ça, évidemment. Et les syndicats qui souvent, enfin, il y a pas mal de régimes spéciaux.
Donc, ils partent plutôt du côté de la population que du côté des syndicats. Bah, double blocage.
Ça doit être quoi la priorité sur la réforme des retraites, Benjamin Muller, pour Emmanuel Macron? Ça doit être l'âge pivot, la fin des régimes spéciaux, les petites retraites, la pénibilité, parce qu'il y a quand même pas mal de chantiers, là.
La priorité, je pense que c'est les petites retraites, c'est les retraites disparates, c'est quand il y a eu des arrêts de carrière, c'est les retraites des femmes qui sont arrêtées pour s'occuper des enfants. C'est, je pense que c'est avant toute chose ça. Effectivement, 63, 64, 65 ans, je vous le dis tel quel, moi je suis très mal placé pour savoir, ce sera dans 30 ans, moi je suis foutu. À mon avis, d'ici là, il y aura eu 25 réformes et ce sera à 75.
Bon pour 75, ouais. Ça,
donc,
je pense, ouais.
Donc, c'est pas trop le sujet qui me. Mais effectivement, quand vous entendez des témoignages, notamment ici sur RMC, de gens qui appellent avec des microscopiques retraites qui n'arrivent pas à boucler après des vies de labeur, etc., ça me paraît.
C'est pas la majorité, hein.
Non, mais.
Ah, évidemment, ça frappe compte. Et ça marque, oui. Mais c'est vraiment pas la majorité.
La priorité. C'est pour ça que je dis, selon moi, la priorité. Régimes spéciaux, j'ose même pas imaginer l'état du pays. Enfin, je veux dire, c'est sans doute une mesure à faire, etc., mais le blocage va être total, même si.
Après,
Français...
la SNCF a commencé à réformer, par exemple. Aujourd'hui, absolument. Vous rentrez à la SNCF, vous n'avez plus la retraite à 55 ans, etc. C'est fini. Donc, quand même, à la fois.
Oui,
les,
on peut
les
réformer, mais il faut être fin, là.
Pour l'instant, c'est sa seule grande victoire, la réforme de la SNCF, qui a vraiment abouti et qui est en. Non, un grand président dirait, je vais résoudre le problème définitif, je vais augmenter le nombre de cotisants. Donc, il n'y aura plus de problème de retraite.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Et
le taux de chômage n'a jamais été aussi bas, là. Vous
alors,
avez vu,
augmenter le nombre de cotisants, c'est créer des emplois industriels. Mais il n'a pas les moyens.
Ah, la marotte de Péricourt revient.
C'est pas que la mienne, je vous rassure.
Oui, je sais, mais enfin, vous en parlez beaucoup.
J'en suis compétent que moi.
Oui. Vincent nous appelle de Saint-Nicolas de Bliquetuy. Je ne connais pas du tout cette ville. Péricourt, vous connaissez?
Ah, non plus.
Ah, ben, c'est incroyable.
Je vais y aller toutes.
C'est où, Vincent?
C'est dans le 76, en Normandie.
Ah, écoutez, très bien. Vincent, c'est une bonne ou une mauvaise idée, la dissolution? Ce serait, pardon, on va quand même mettre ça au conditionnel. Une bonne ou une mauvaise idée, la dissolution de l'Assemblée nationale?
Pour moi, une très mauvaise. Parce que d'abord, ça reflète un peu le chaos qu'on a au niveau de la politique ces dernières années. Mmh. Et je trouve que, en fait, ils sont tous un petit peu perchés sur leurs idées, qu'ils ne cherchent même plus à discuter et que... ils sont prêts à aller un peu partout, je parle de tous les bords politiques. Hein. Moi, j'ai un peu plus le cœur à droite, mais je trouve ça dommage que quand même, à ce niveau-là, personne n'est capable de discuter pour trouver un compromis, quelque chose, je sais pas. Personne ne veut reculer, personne ne lâche jamais rien, et puis sans s'occuper forcément aussi des gens, et ça, moi, je trouve ça à vomir.
Mais alors là, Vincent, vous dites j'ai le cœur à droite, donc a priori vous n'avez pas voté pour Renaissance, je veux dire aux législatives. Mais ça veut dire que vous, même ayant le cœur à droite, vous dites il faut discuter parce que là on voit par exemple que le RN et les LR ne veulent pas discuter. Donc et vous dites si il faut quand même discuter avec Mme Macron, quoi.
Bah finalement oui, mais après c'est pareil, le problème de base je pense qu'il vient de lui, parce que normalement il avait dit qu'il ne devait pas toucher aux retraites sans avoir baissé réellement le chômage.
Alors aujourd'hui il l'a baissé. Ça il faut quand même faire crédit de ça. Bah si, Péricourt, si.
Il y a beaucoup à la marge, enfin c'est ridicule.
C'est pas à la marge, non.
Enfin vous plaisantez. Enfin, j'espère que
j'ai eu un taux de chômage aussi bas.
Bah oui.
Attendez, on est dans la propagande d'État là, c'est pas possible.
Ah, bon,
il y a une baisse du chômage à l'état indéniable, c'est pas l'inversement total. Et puis alors les chiffres, faut les voir, c'est aussi des reclassements différents. Non.
Ah d'accord, donc on va se calmer.
Non, il y a une baisse du chômage, on va se calmer, c'est formidable. Ça n'a jamais baissé autant. Il reste encore en France beaucoup trop de chômeurs. Voilà.
Mais d'accord. Et même s'il en restait un, ce serait un.
Non mais ça résout pas le problème des retraites. C'est pas cette baisse de chômage là qui est symbolique qui va inverser le problème des retraites. Voilà. Symbolique.
Elle est pas symbolique. Non mais tu peux au moins accorder ça, enfin Péricourt.
C'est une réécriture. C'est une réécriture administrative des conditions de chômage. Voilà, les gens qui aujourd'hui sont confrontés à un problème d'emploi sont beaucoup plus nombreux que vous ne pensez. Voilà.
Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a l'explosion des jobs d'auto-entreprise. entreprise, typiquement le livreur Uber, le livreur Deliveroo, et tous ces gens qui vont vous livrer de la bouffe sous la pluie.
Mais ils sont pas au chômage.
Ils sont pas au chômage. Enfin, il faut voir les conditions de travail.
Je suis pas en train de dire
que c'est mieux que le chômage.
Non, mais attends. Si on doit enlever tous les métiers pénibles en disant c'est comme le chômage, mais non, mais qu'est-ce qu'on fait là?
J'ai dit que je ferais ce métier s'il fallait. Mais qu'on me dise pas que ça a fait baisser le chômage. C'est une réécriture de l'histoire. Mais c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Voilà. Mais on va se calmer. Pas non plus, il a pas pris la baguette magique, voilà.
Non, voilà.
Faire baisser le chômage, c'est créer des CDI. En grand nombre, marchands, des emplois marchands. Faire des emplois de service ou des trucs précaires, c'est pas augmenter le chômage.
Enfin, c'est très bien c'est que le vivier d'emploi, il est dans les services.
La baisse du chômage.
Il est dans l'aide à la personne.
Ben, c'est pour ça qu'on est en train d'en crever. Ce n'est pas des emplois marchands, ce n'est pas des emplois industriels.
Mais enfin,
c'est
on a
pas
besoin d'emplois de service.
Ce n'est pas des emplois qui enrichissent.
Je pense qu'on est en train de dévier par rapport à la France.
Non, parce que justement, c'est pas à cause de ça que justement on n'arrive pas à avoir des cotisants pour les retraites, c'est tout.
Vous avez des messages, Thibault?
Oui, Jérémy qui dénonce un coup de com' de la part d'Emmanuel Macron. En attendant, on ne parle pas du fond. Pour Nicolas, Emmanuel Macron refuse le compromis, il ne veut rien entendre. Et c'est la raison pour laquelle l'opposition, selon lui, refuse de discuter. Et puis enfin, nous avons Patrick. Qui, lui, nous dit que Macron n'accepte aucune contradiction, il est décidé à faire ce qu'il veut et ce qu'il a envie.
En même temps, on ne parle pas du fond, comme on ne le connaît pas. C'est compliqué, comme on ne nous explique pas ce qu'il y a dans le fond.
C'est ce que nous explique Jérémy.
On aimerait savoir ce qu'il y a dans cette réforme, mais comme personne ne sait.
Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est loin d'être une nouveauté, comme ça, parce que le précédent auditeur disait oui, c'est scandaleux, etc. Mais il y a eu 60 fois des motions de censure déposées depuis 1958. Oui. Une fois, ça a mené sur une dissolution. Oui. Donc rien de nouveau sous le soleil, et globalement. On est trop facile.
En même temps, on n'a jamais eu de majorité relative aussi basse ou aussi forte en relativité.
On vous a posé la question, en tout cas sur le compte Twitter d'Estelle Midi, @EstelleMidi, Emmanuel Macron qui menace de dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce que ce serait la bonne solution?
Et c'est la bonne solution pour 54% d'entre vous. Autant dire que
mauvais signe pour lui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent aller voter contre lui.
Ben c'est ce que je disais tout à l'heure, merci.
Je sais.
Dans un instant, nous allons parler de ce collectif écolo qui dégonfle les pneus des SUV, vous savez, pour alerter un petit peu sur la pollution qu'engendre ce type de véhicule. Est-ce que vous trouvez ça choquant ou est-ce que vous trouvez ça marrant? Appelez-nous au 32-16, personne n'est d'accord sur le plateau, à tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23 avec Thibaut Texer, Perico Légas, Thierry Moreau et Benjamin Buller avec vous bien sûr au 32-16 pour discuter autour de l'action du jour. Et cette action, eh bien, c'est celle d'un collectif écolo qui a dégonflé les pneus de 60 SUV hier en banlieue parisienne. Leur but à ces écolos, alerter sur la pollution engendrée par ce type de véhicule.
Et c'est pas la première fois que ça arrive, on pourrait même parler d'une tendance qui se développe aux quatre coins du pays, Bretagne, Haute-Garonne, Île-de-France. Depuis le début du mois d'août, un collectif nommé les dégonfleurs de SUV s'en prend donc aux véhicules de sport utilitaires. Après avoir dégonflé les pneus pendant la nuit, les saboteurs laissent généralement un message sur le pare-brise expliquant leur geste. Votre SUV tue. Un véhicule de cette taille dans une ville est particulièrement néfaste. C'est un désastre pour le climat. C'est ce qu'il y a écrit sur ce message. Collectif qui dénonce par ailleurs l'inaction de l'État en la matière, alors que de nombreuses études ont prouvé la responsabilité des SUV dans le total des émissions de gaz à effet de serre. La France n'est pas la seule concernée, puisque le mouvement s'inspire d'un collectif britannique qui s'est propagé à plusieurs pays européens. Illustration en Belgique, où des activistes écologiques ont usé de pratiques similaires jusqu'à allant rayer et graver les véhicules pour dissuader les automobilistes d'opter pour ces SUV. Des pratiques qui sont, on le rappelle, punies par la loi, puisqu'il s'agit d'actes de vandalisme
même
en cas
dégonflé.
De. Bah, même dégonflé. Dégonflé, non, mais quand tu rayes.
Mise en danger de la vie d'autrui.
Oui. Voilà. Et du coup, en cas de dommage léger, le responsable encourt en effet une peine de 1500 euros d'amende et une peine de travail d'intérêt général. Pour les dommages plus importants, la peine passe à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Ça commence par les pneus, ça peut finir. Par des vitres cassées ou des choses comme ça.
Pour l'instant, c'est que des pneus.
Pour le moment, c'est que des pneus.
Bon, alors, est-ce que. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que ça vous fait marrer ces écolos qui dégonflent les pneus? Je vais commencer avec Benjamin Muller qui est un peu notre bobo de service mais qui pourtant roule en SUV.
Benjamin Muller. Je suis un bobo ambivalent. On va dire c'est que j'ai à la fois un vélo électrique et une 5008. La dernière fois, j'avais dit 5008.
En même temps, t'étais macronien, en fait.
Voilà, c'est ça.
C'est quand même un SUV, quoi.
C'est un SUV qui consomme beaucoup, effectivement.
Ah bah,
en fait, je suis partagé. C'est-à-dire qu'ils ont raison dans le message qu'ils veulent faire passer. Mais la manière.
Mais pas
vraiment...
votre voiture à vous, quoi.
Mais non, et en plus, je dois vous dire que j'habite pas très loin de là où ça s'est passé et que j'ai donc mon SUV, donc je fais pas le malin si vous m'écoutez, ne vous en prenez pas à moi, j'ai un vélo électrique, je vous le rappelle. Non, ce que je veux dire, c'est que le message. le message est bon à faire passer. Mais la manière, en fait, il faut surtout pas que l'écologie soit excluante comme ça. Moi, mettez-vous à la place du type qui s'est levé ce matin, qui a vu ses pneus dégonflés, qui est dégoûté, qui peut pas aller
bosser. S'il n'avait pas eu des SUV, il aurait pas eu ses pneus dégonflés.
Oui, enfin bon, il a envie de les étrangler. S'il voulait aller bosser, emmener ses enfants à l'école, etc. Oui. C'est pas une bonne manière. Les écolos, par moment, ils savent quand même être un peu imaginatifs. Ça peut être coloré. Ça peut être
s'enchaîner à un filet à Roland Garros, ça vous plaît plus ou...
Oh, ça, j'ai trouvé que ça avait du panache.
Ah bah, c'est marrant, moi non.
Ça a du panache.
Bof.
Bah pourquoi pas ?
Bah moi j'ai pas SUV donc
vous auriez eu le courage
d'aller à Roland Garros. Non, je rigole. Mais non, mais vous dites finalement il faut pas ce message là, mais il faut quel message alors ? Faut non. Juste dire débrancher la box.
Non, mais je sais pas, on peut imaginer coller des grandes affiches, faire des faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Bah est-ce que ça va marcher là ? Est-ce que les types ils vont revendre leur SUV ?
Bah oui, on en reparle. Toi, ici les écolos avaient mis des affiches.
Ça stigmatise, enfin, c'est extrêmement choquant.
Mais on passe notre temps à stigmatiser les ceux qui roulent en SUV.
Je suis désolé, c'est extrêmement choquant pour plusieurs raisons. Un, c'est dangereux. Si le pneu est pas bien dégonflé, laissez-moi terminer. Si le pneu n'est pas bien dégonflé et que le type prend sa voiture et qu'il a un accident, c'est dangereux. Ça s'appelle la mise en danger de la vie autrui, et si moi si on le fait, je déposerai plainte. La deuxième chose, c'est contre-productif. Quand on veut emmener une population dans un projet de transition écologique, il faut que tout le monde y aille. D'accord. Stigmatiser une partie de la population, c'est bête, c'est stupide. Et c'est d'autant plus bête que quand il dégonfle un SUV moderne, il s'attaque à un véhicule qui pollue moins que la petite 208 qui est juste à côté diesel et qui pollue deux fois plus. Donc c'est crétin. En plus d'être bête, c'est crétin. Et dernière chose, c'est illégal. Comme tu l'as rappelé, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui. Donc de toute façon, tout ça.
Alors
ils appellent ça de l'éco-sabotage. Oui. Formidable. Sauf que c'est un premier pas vers l'éco-terrorisme. Et l'éco-terrorisme, c'est ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis et en Angleterre. C'est dangereux. Parce que pour l'instant, ils dégonflent les pneus. Demain, ils les crèveront. Ils rayeront les voitures. Tout ça n'est pas très grave. Mmh. Mais ensuite, on aboutira. Je rappelle que dans l'histoire, il y a eu 4 vagues de terrorisme. Il y a eu le terrorisme anarchiste. Il y a eu le terrorisme anticolonial.
Il y a
eu le terrorisme de l'ultra-gauche. Et ça s'est terminé aujourd'hui par un terrorisme religieux. La cinquième vague, expliquent les spécialistes du terrorisme, ce sera un terrorisme écolo.
Durable.
Moi, j'en veux pas.
Là, on en est encore loin.
Oui, c'est ça.
On y arrive. On fêtera les 10 ans de l'émission, vous verrez qu'on en parlera.
Quand les véganes attaquent les boucheries et les poissonneries sur la cause de l'environnement et la souffrance animale, c'est limite. Là, c'est sûr que
c'est le temps d'après.
Non, mais vous aurez un jour un taré qui va dire moi, je fous le feu à la bagnole. Le pneu, c'est pas assez. Donc, c'est une porte ouverte. Alors, en même temps,
c'est un peu potage, quand même.
Non, alors, je suis d'accord.
C'est des gamins.
Alors, moi, ce que j'aurais fait, la pomme de terre dans le pot d'échappement, il peut pas démarrer. Ça fait du mal à personne.
Ah bah si, ça fait du mal à quelqu'un, parce que dégonflé, vous mettez une petite bombe de, vous savez les.
Non, mais là.
Mais si, qui a gonflé de direct.
Toucher la pression des pneus.
J'avais un SUV parce que j'ai eu un SUV. Touché. Et je savais qu'il y avait des cons qui faisaient ça.
Donc
quand je venais à Paris, je prenais mon petit gonfleur qui se branche sur le l'allume-cigare au cas où quelqu'un me dégonflerait mon pneu parce que j'ai pas envie qu'on me dégonfle.
Il est parfait. Il est parfait. T'as tout prévu. Donc je disais, une patate dans le pot d'échappement, ça empêche de démarrer, ça n'altère pas. Mais toucher à la pression des pneus, on n'a pas le droit.
C'est scandaleux.
C'est une atteinte à l'intégrité de la sécurité. Et du blanc d'Espagne. Badigeonner toute la bagnole, le blanc d'Espagne qui est un pollueur, voilà, ça veut dire qu'on marque le coup. C'est vrai que les gens qui ont des SUV, j'en connais pas mal, et c'est vrai qu'ils ont un problème. Ils ont un problème. Ils sont sympathiques. Hein, je les respecte.
Oui, regardez Benjamin.
J'ai des amis. Non, mais
on lui, pourrait être amis, hein, Perico.
Oui, on pourrait être amis. Mais c'est vrai que pour rouler en SUV aujourd'hui,
on pourrait faire une
faut avoir un problème d'ego terrible. Mais il faut être mal dans sa peau. Il faut pas sortir bien.
Mais Perico, vous êtes bien
à l'époque. Il faut être décalé. Ou alors c'est une forme de protestation contre le. Vous voyez. Mais c'est des gens qui ont un problème psychanalytique grave.
D'avoir un SUV.
Ah, il faut consulter quand on roule en SUV.
Mais
attention, je veux pas leur faire de mal.
Mais si vous avez une famille nombreuse, vous n'allez pas rouler en mini.
Mais il y a d'autres solutions pour la famille nombreuse.
Ah, bon, c'est quoi ?
Bah, le tandem, je sais pas.
Le tandem pour venir de la banlieue de la grande banlieue. Non, mais c'est ridicule.
Vous avez fait fac de psycho, non, Perico ?
Non, vétérinaire. J'ai fait études vétérinaires, c'est pour ça que les gens du SUV m'intéressent.
Non, le SUV, c'est des questions de sécurité quand même. J'ai 3 enfants en bas âge. Moi, pourquoi j'ai pris un SUV ? C'est pas pour une histoire d'ego mal truc. Hein. C'est quand je fais de la route, je suis très content parce que je me sens à peu près en sécurité sur l'autoroute. Est-ce que ça fait de moi un homme mal dans sa tête, Perico ?
Moi, j'aime les grosses voitures. Grande voiture.
Ah, c'est
pas le SUV. Le SUV en soi.
Mais c'est pire, c'est la grande voiture.
Mais oui, mais moi, c'est de la bagnole, vous voyez, c'est la limousine. Voilà, le break.
C'est vous qu'il faut qu'on.
C'est le SUV, le SUV, il est macronien comme système.
Okay, on est avec Michael, qui nous appelle de Bullion, dans les Yvelines. Bonjour, Michael.
Oui, bonjour, Estelle Denis. Bonjour, toute la bande. Et c'est passionnant et passionné, votre débat.
Bah, comme d'hab, Michael.
Mais moi, voilà. Moi, je suis un écolo, qui milite depuis très longtemps. Et moi, ce genre d'activisme me massacre le message écolo depuis des années et des années. Parce Bravo. Qu'aujourd'hui, on nous radicalise et aujourd'hui, l'écologie, elle est pour tous. Qu'on soit d'extrême droite ou d'extrême gauche. Mm-hmm. On est tous, on peut tous être écolo. Avoir Bravo, un Michael. Composteur dans son jardin, un récupérateur d'eau, c'est pas de droite, c'est pas de gauche. Et ces gens-là massacrent le message, malheureusement.
Oui, mais Michael, à un moment, on sait que les SUV, alors peut-être pas les SUV de dernière génération, mais un SUV, ça pollue plus qu'une petite citadine. Donc en fait, à un moment, si on veut alerter sur la pollution, est-ce que c'est pas un moyen, je veux dire, un peu potache, quoi?
Alors voilà, mais alors à ce moment-là, quand vous passez devant une maison ultra éclairée, bah vous allez casser le compteur pour qu'il n'y ait plus d'électricité dans la maison.
Non, mais on peut le débrancher. Oui, mais alors attendez, regardez Michael. Là par exemple, il y a eu beaucoup de vitrines allumées, vous savez, dans les grandes villes, et vous avez pas mal de d'écolos qui ont fait, et tout le monde a trouvé ça absolument génial, qu'aller éteindre les vitrines.
C'est un autre débat, parce qu'aujourd'hui, il y a une loi qui existe, et normalement, les vitrines, elles devraient plus être allumées. Absolument. Ça, c'est le respect de la loi. Mais ça, par contre, effectivement, c'est un autre sujet. Là, on parle de quelque chose, là, on parle de dégonfler les pneus. Déjà, si vous avez une urgence et que vous avez vos pneus dégonflés, c'est malin d'avoir fait ça, très honnêtement. Moi, je trouve un SUV hybride, hein. On fait tous des efforts collectifs. Mais stop, quoi, il faut arrêter d'être radical. Je vous dis, ça tue le message, vraiment.
Après, le message, il est aussi surtout pour ceux qui roulent en ville. C'est important de le signaler. Ça se passe dans les villes, dans les centres-villes. Est-ce qu'on a besoin d'un SUV dans Paris?
Est-ce qu'on peut venir en ville avec son SUV quand on est à la campagne? Comment on distingue celui qui est venu de la campagne pour être en ville de celui qui utilise son SUV intramuros?
Aujourd'hui dans Paris, Thierry, il y a beaucoup de SUV. Okay. Et pas tous viennent de la campagne.
Conduits par des personnes seules, des gens qui ont des enfants
et qui le week-end ou pendant les vacances partent de Paris. Et ils vont pas avoir de bagnole.
Moi, tu prêches un convaincu. J'ai eu un SUV. Je n'en ai plus. Aujourd'hui, j'ai une petite voiture électrique parce que je n'ai plus à transporter mes enfants. Mais quand j'étais dans le cas de Benjamin, évidemment que j'avais une grosse voiture.
Attends, t'avais deux enfants. Tu n'es pas obligé d'avoir une grosse voiture avec deux enfants. Moi, j'ai deux enfants. J'ai pas une grosse voiture.
Je vais vous dire,
j'ai une voiture normale.
Ce qui me choque le plus.
Une voiture normale, faut mettre des bagages. Enfin, quand vous partez un peu loin en vacances.
Je prends pas beaucoup de bagages, en fait, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un SUV quand vous avez deux enfants. Pardon, Thierry. Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment un truc de riche, quoi.
Ce qui me choque le plus. Moi, je fais souvent la sortie des maternelles.
Avec deux enfants, pardon. Bah oui, ça se fait, je vous assure.
Quand on part en vacances, on est sacrément serré. Hein.
Et vous prenez moins de bagages, c'est tout.
Estelle, si je peux me permettre, un truc.
Oui, Michael.
Le SUV le plus vendu, c'est le SUV.
Oui, c'est la Dacia.
Merci, Michael, bravo de remettre Estelle en place.
Je suis d'accord, Michael.
Ce qui me choque le plus, je vous dis, je fais souvent la sortie des maternelles ou des écoles des petits parce que je. Voilà. Et je vois souvent.
Vous avez des enfants.
Oui, donc je.
C'est bien de préciser.
Je préfère. Vous dites, je fais souvent la sortie des écoles, je dis parce que vous avez des enfants. Enfin, je.
Oui.
Ah. Oui, bon, alors continuez.
Je sais plus où j'en étais. Je vois souvent des femmes seules.
Oui.
Et en général, des petites bonnes femmes, quoi. Vous voyez, des mamans comme ça actives avec les enfants. Oui. On amène les enfants SUV et on va aller chercher un SUV. Bloque la rue, on se gare. Et puis voilà.
Ça, c'est de l'incivisme, c'est autre chose.
Non, je ne parle pas de ça. J'ai le fait que ça soit une femme seule qui prenne le SUV. On a une autre voiture pour
aller chercher un SUV. C'est la voiture. On a
une deuxième voiture.
Joris, merci en tout cas, Michael, d'avoir appelé. Joris nous appelle de Marseille. Il est officier de l'armée, ça va pas rigoler. Salut, Joris.
Salut Estelle, bonjour à toute l'équipe.
Ah, le petit accent, on adore Joris. Joris, je sens que vous allez être contre l'action des écolos, je le sens comme ça, vous voyez, au doigt mouillé.
Eh bien, vous avez entièrement raison, parce que je ne trouve ça ni pertinent, ni potache. Je trouve simplement que c'est encore une fois, pour parler vulgairement, emmerder ou embêter la vie de Pierre-Paul ou Jacques, du petit citoyen qui s'est démené, lui, pour acheter son SUV. Parce que je pense qu'on est assez alerté, la population française, on est assez alerté des problèmes écologiques à l'heure actuelle. Je pense qu'on entend ça assez à la télé ou à la radio. Et je vais même aller plus loin que ça. Je pense que tout simplement, ça traduit une fois de plus la lutte des classes. Voilà, je pense que les personnes qui font ces actions-là ne peuvent tout simplement pas. Alors attention, je ne discrimine personne, mais je pense que c'est des personnes qui ne peuvent tout simplement pas s'acheter ce genre de véhicule. Et je pense qu'en fait, c'est
de la jalousie, quoi.
Exactement. Voilà.
C'est pas de la jalousie. Aujourd'hui, un véhicule SUV ne coûte pas plus cher qu'une grosse berline une Dacia, ça coûte 20 000 euros. C'est le prix d'une voiture aujourd'hui.
Mais je ne pense pas que ces gens-là puissent s'acheter même une Dacia à 20 000 euros.
Voilà. Oui, non, mais d'accord, mais ils ne le font pas. Après, Joris, moi, je peux comprendre que vous trouviez pas ça drôle et pas ça pertinent, ça y a aucun souci. Mais je pense que voilà, c'est surtout des mômes et simplement ils disent, bah, faut alerter sur la pollution qu'engendre les SUV et il faut faire quelque chose. Et ils se disent, effectivement, ils auraient pu rayer les véhicules, casser les vitres. Et ils disent, bah, on va les dégonfler. C'est oui. dégonfler les pneus, c'est pas crever les pneus. C'est dégonfler. Je pense que ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait mis en danger de la vie d'autrui.
Ces mêmes mômes qui sont militants comme ça d'Extinction Rebellion, par exemple, ils se filment.
Bah, les mêmes.
En selfie avec leur super smartphone qui a été fait par des petits gamins à l'autre bout de la terre avec des terres rares.
Exactement.
Donc faut arrêter. Si on veut être cohérent jusqu'au bout, à ce moment-là, on va vivre dans les bois.
Exactement.
On fait pipi dans des toilettes sèches et on mange des baies. Donc non, on n'est pas dans cette société-là.
C'est parce que vous ne caricaturez pas, c'est ça qui est top avec vous.
Non mais excusez-moi.
Enfin, attendez.
Vous les avez vus ces gamins avec leur smartphone. On leur a expliqué que le smartphone c'était plus polluant que certains SUV.
Mais la vie est faite de paradoxes. Tiens,
mais
on est
d'accord.
On peut avoir un iPhone dernier cri.
Non mais si c'est si dangereux que ça, la décision est politique. On les taxe ou on les interdit. Voilà.
Alors,
est-ce que le SUV, ben, là, c'est un combat politique. Voilà. Donc, que les partis politiques qui sont de cette
sensibilité
fassent un dépôt de loi à l'Assemblée nationale et disent, voilà, on voudrait taxer les SUV à 40%, voilà. Ou alors que on modifie chez le constructeur le fait de faire que ce soit des véhicules polluants.
Si tout ce que je vois, c'est que dès que ça touche à la voiture, ça vous gêne. C'est-à-dire que éteindre la box, mettre un couvercle, faire hyper attention, chauffer à 19. Alors, ça vous gêne pas. C'est formidable. Mais alors, dès qu'on touche à la voiture, alors là, il y a
beaucoup de gens utilisent la voiture pour travailler, emmener leurs enfants à l'école, pour vivre.
Moi, je connais des gens qui habitent.
Juste le fait de mettre un couvercle sur la casserole, d'abord, moi, je le fais depuis toujours, je comprends même pas que vous le faisiez pas avant. Débrancher sa bosse, tout ça, c'est possible. La voiture, pour beaucoup de nos concitoyens, et je suis certain que nos auditeurs, ils sont tous d'accord avec moi, c'est un moyen de vivre, de se déplacer, de travailler, d'aller chercher ses enfants.
Et ben, on va voir. Allez-y.
J'ai une question. Enfin, j'ai rien qu'on. Moi, donc, mon 5008, dont je parlais tout à l'heure, qui vont polluer. Je suis désolé, mais j'ai le Nutri-Score, enfin c'est pas le mot, mais le.
Non, c'est pas le mot.
La pastille.
Ah, oui. Eh ben, c'est bien. Là, ça veut dire jeune conducteur.
Non. Donc, pourquoi est-ce qu'on est A si on est SUV?
Écoutez, je ne sais pas.
J'aimerais bien que quelqu'un vous appelle pour me dire. Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez avoir des SUV qui polluent pas.
Mais peut-être que si vous êtes A, et ben vos pneus seront laissés en état.
Et puis, on peut régler le débat. Il existe des SUV hybrides et électriques.
Et puis,
c'est ça. Donc, tu vas dégonfler les pneus que des vieux SUV qui sont aux personnes les plus démunies.
Il faut demander la carte grise.
Tu vas les laisser.
Il faut demander la carte grise au propriétaire avant de dégonfler les pneus. On reviendra sur le couvert. Quand je ne suis pas d'accord.
D'accord. Ben, écoutez, on reviendra plus tard. Je suis pas sûr que ça fasse vraiment tout un débat. Ben, tiens, on va voir si nos auditeurs, nos téléspectateurs sont d'accord avec vous. Collectif qui dégonfle les pneus des SUV. Est-ce que c'est choquant ou est-ce que c'est marrant?
Et comme Thierry Moreau, vous êtes 87% à penser que oui, c'est choquant. 13% trouve ça marrant.
Je vous aime.
Allez, dans un instant, on sera avec Anthony Morel. Et là, ça va vous plaire, Perico. Anthony, il ne vient pas les mains vides, il vient avec des pâtisseries, mais des pâtisseries high-tech. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
1050 sur RMC, RMC Story, Canal 23, vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment de parler nouvelles technologies et pâtisserie avec Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi,
on n'arrête pas le progrès.
Et Anthony, aujourd'hui avec vous, c'est atelier dégustation. Vous êtes venu avec des gâteaux et des pâtisseries, mais pas n'importe quel gâteau, ce sont des gâteaux en 3D.
Exactement, des gâteaux qui ont été fabriqués, imprimés en 3D avec une imprimante 3D. Vous savez qu'on peut tout faire avec une imprimante 3D, on peut fabriquer des objets évidemment, mais il y a aussi des imprimantes 3D alimentaires et donc on peut s'en servir maintenant, y compris pour la pâtisserie. Je vais vous faire goûter, je vais montrer d'abord.
Mais c'est pas du papier.
Non, alors vous allez me poser la question. Quand je dis imprimante 3D alimentaire, c'est que donc le principe d'une imprimante 3D. Tenez, vous allez goûter puis vous allez faire passer.
Celui-là.
Faites passer à vos voisins.
Ah, ça va bien.
Voilà. Imprimante 3D, c'est quoi? C'est on part d'un modèle informatique, d'un dessin qu'on va pouvoir modéliser, et ensuite la machine, elle, va venir déposer couche par couche le matériau de construction. Alors en général, c'est du plastique ou de la résine. Là, dans le cadre d'une imprimante alimentaire, évidemment, ça va être de la pâte, ça va être du sucre, ça peut être de la meringue, ça peut être du chocolat, et vous vous retrouvez avec un gâteau, mais qui est fait avec des aliments tout à fait normaux.
C'est bon, hein?
Alors, c'est bon ou pas? Ouais. Bah, c'est comme une pâtisserie normale. Alors les avantages, c'est quoi?
On la met au four après.
Alors c'est oui, absolument. Alors les avantages c'est quoi? C'est que un, vous pouvez fabriquer par exemple des biscuits avec des formes absolument incroyables. C'est-à-dire que Il y a Perico qui fait la tête.
Mais c'est des gâteaux normaux, qu'est-ce que c'est?
C'est des gâteaux. Oui, mais ils sont fabriqués à partir d'une imprimante 3D. C'est ça la différence. C'est que un, tu peux faire des formes que tu ne peux pas faire ou très difficilement.
Ça sort d'une imprimante, ça?
Ça sort d'une imprimante.
Mais c'est pas une imprimante papier.
Vous me fatiguez, c'est pas possible. Donc, en gros, les avantages, c'est quoi? Vous pouvez faire des formes qui sont très difficiles à réaliser, même pour un pâtissier aguerri, des formes avec des rosaces incroyables, des porte-à-faux, comme on dit en architecture, enfin des trucs absolument incroyables. Deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir aussi automatiser la fabrication, par exemple, des fonds de tarte. Ce qui est assez fastidieux, vous savez que les pâtissiers, comme dans beaucoup de
domaines. Il y a des machines qui font ça déjà.
Il y a des machines qui font ça. Souvent, les pâtissiers, ils font appel à du surgelé surtout. Là, vous n'avez plus besoin de faire du surgelé, vous prenez des ingrédients tout à fait normaux et c'est la machine qui va s'occuper de faire le boulot à votre place d'une certaine manière. C'est qu'il y a des grosses pénuries de main-d'œuvre dans les pâtisseries. Oui. Bah, ça fait partie des solutions, ces imprimantes 3D. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du goût?
C'est pas mal. Non, mais Perico, tu trouves ça bien ou pas?
C'est très bon. Mais alors, pourquoi le mot imprimante? C'est pas une imprimante, c'est une machine à faire des gâteaux. Pourquoi le pour on a mis moins?
C'est le principe d'une imprimante 3D. C'est-à-dire que tu pars d'un modèle informatique, c'est toi qui choisis la forme de ton gâteau, tu vois, tu le dessines informatiquement si tu veux. Et ensuite, la machine va reproduire cette forme en la produisant couche par couche.
Donc, on peut créer exactement la forme.
Exactement.
On fait ce qu'on veut. En fait.
Tout l'intérêt, c'est ça. C'est de pouvoir personnaliser à l'extrême et de pouvoir automatiser un certain nombre de tâches. Et encore une fois, les ingrédients sont normaux. Mmh. Donc, le goût est tout à fait normal. En fait, c'est un instrument comme un autre. Comme vous avez des batteurs, comme vous avez des laminoirs, vous avez maintenant à la disposition des pâtissiers aussi des imprimantes.
Mais à quoi sert le pâtissier? C'est la mort du pâtissier.
Tu vas avoir un ingénieur qui va créer des gâteaux, quoi.
Alors, bien sûr, vous avez absolument. C'est des nouveaux métiers, là, d'ailleurs. J'en profite pour saluer l'entreprise qui fait ça.
C'est la mort des restos, ça.
C'est pas la mort des pâtissiers. Non. Mais j'insiste sur ce point.
Le mélange des saveurs, ce sera toujours le pâtissier qui le fera.
D'abord.
Ce sera un ingénieur.
D'abord, les recettes. Alors, il y a des ingénieurs chimistes qui travaillent, par exemple, pour cette entreprise qui s'appelle la pâtisserie numérique. C'est des Français qui font ça. Et je salue Marine qui a eu la gentillesse de nous apporter ces pâtisseries qu'il a fait elle-même avec cette imprimante.
Qui sont excellentes.
Par exemple, toute la partie fruits, ça, c'est pas l'imprimante qui va le faire, évidemment. Il y a toujours une partie créativité quand même pour le pâtissier. Ce sont des vrais fruits.
Mais on les met quand, les fruits? On les prend.
Vous avez compris le principe?
Oui, j'ai compris. Mais alors, est-ce qu'on peut faire que de la pâtisserie ou il y a d'autres choses qu'on peut faire?
On peut faire plein de trucs. Par exemple, il y a des chocolatiers de plus en plus qui utilisent aussi les imprimantes 3D pour pouvoir faire des formes absolument extraordinaires. Ça aussi, c'est un outil qui est intéressant à leur service. On peut faire des bonbons. Il y a des imprimantes 3D à bonbons. Les grands industriels de l'agroalimentaire s'y intéressent aussi. Des grandes marques que je ne vais pas citer, de pâtes, par exemple. Ah, il en reste un. Il est pour moi, c'est le plus beau.
C'est celui avec des fruits.
C'est celui avec des fruits. Je ne vais pas le manger maintenant. Pour des pâtes, on pourrait faire, par exemple, des pâtes ultra personnalisées avec, je sais pas, le prénom de votre amoureuse, j'en sais rien, ou des formes auxquelles vous avez jamais pensé. Voilà, vous enverriez votre petit fichier et vous pourriez recevoir à la maison.
Ça existe déjà.
Bah, des pâtes.
Ah, bah, non, mais les bonbons personnalisés, ça existe.
Oui, les bonbons, absolument. Non, mais les bonbons personnalisés, oui. Mais là, vous pourriez avoir des trucs faits avec une imprimante 3D. Vous pouvez fabriquer la forme que vous voulez. C'est pas seulement mettre le nom sur un bonbon, sur un Smarties de votre chérie. C'est pas ça. Là, on parle de vraiment
faire des trucs graves. C'est ça que vous voulez nous dire.
Ah, bah, ce que vous voulez. Vous faites la forme que vous voulez.
Ça existe déjà.
Oui, ça existe, je crois. C'est quelques-uns des cas d'usage pour ces imprimantes 3D qui vont de plus en plus s'inviter chez les artisans.
Alors, vous savez que moi, j'adore les gadgets. Est-ce que, par exemple, dans 5, 10 ans, est-ce que chez moi, entre le micro-ondes et le frigo, est-ce que j'aurai une imprimante 3D?
C'est tout à fait possible. Alors, c'est vrai que pour l'instant, c'est plus réservé aux professionnels. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs, ça coûte assez cher. Enfin, c'est autour de 500€ par mois, par exemple, pour avoir une imprimante comme celle-ci. Donc, c'est un investissement, évidemment. Mais vous commencez à avoir des imprimantes alimentaires pour les particuliers. Il y a une machine qui s'appelle la Foodini qui vient des États-Unis. Alors, c'est pas donné, hein. C'est 1800€ pour le coup. Et là, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. Vous avez des cartouches, encore une fois, comme des douilles. Avec dedans, vous pouvez mettre de la viande hachée, vous pouvez mettre du houmous, tout un tas de trucs et vous pouvez faire des recettes complètes.
Pas beaucoup plus cher que certains robots cuiseurs haut de gamme.
Exactement.
Qui sont quasiment
là. Hein. Moi, je pense qu'on aura ça. Enfin, en tout cas, chez les amoureux de cuisine, on aura probablement à côté de, donc, le robot cuiseur. Et puis, effectivement, pourquoi pas
l'imprimante 3D. On va dire plutôt probablement.
Non, éventuellement. On va le dire comme ça. Mais moi, je trouve que c'est intéressant. Et puis, ça permet aussi, parce que dans ces petites douilles, on peut mesurer très précisément la quantité d'ingrédients qu'on met. Donc, on peut aussi faire des trucs ultra personnalisés en fonction du régime qu'on suit, pour les sportifs de haut niveau, pour les femmes enceintes. Enfin, voilà, on peut personnaliser à l'extrême. C'est aussi un des intérêts.
C'est quand même la porte ouverte au remplacement de l'être humain par une machine.
Mais bien sûr.
Ensuite, vous aurez un logiciel intelligent qui aura 3 étoiles Michelin. Mais il n'y aura plus une main humaine pour manger son
truc. Il y aura toujours une part de créativité. Ça n'est qu'un instrument. C'est ça qu'il faut comprendre.
Merci beaucoup, Anthony Morel. Tous les jours, 12h50, dans Estelle. Tiens, dans un instant, Perico, on parlera des restaurateurs qui veulent interdire l'usage des tickets resto en supermarché pour les réserver à leur seul établissement. Est-ce qu'il faut les soutenir, ces restaurateurs? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi.